Radio Panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique,
ouais.
J'aime bien.
Je peux vous demander ce que vous faites ici ?
Oui, moi je vais à mon atelier ici.
Votre atelier de quoi ?
C'est privé ici, monsieur.
Ouais ? C'est pas grave. C'est un atelier de quoi, monsieur ?
C'est un atelier.
Vous connaissez cet endroit ?
Non. C'est un squat en fait.
Il y a votre commissariat qui était déjà passé ici.
T'as vu passer un mail, pas ?
Non. Pour vous parler à la dame, une blonde.
Ouais.
C'est elle qui est passée, il faudrait que
vous... Enfin, des dames blondes, il y en a quelques-unes, monsieur.
De toute façon, on n'est pas là pour ça, monsieur. Vous n'êtes pas sans savoir que vous n'êtes pas censé former des groupes de plus de deux personnes. Or, ici, j'en compte déjà trois.
C'est parce qu'on habite ensemble.
Vous habitez ensemble, vous avez un domicile.
Pas un domicile.
Ah bah, alors c'est pas bon, hein, monsieur, il faut être domicilié sous le même toit.
Ah d'accord, ok.
Vous avez des carnets d'identité ?
Oui.
Tous les trois ? On peut les voir, s'il vous plaît.
Elle est passée quand cette dame, monsieur ?
Il y a 2 mois.
Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle est passée dans quel cadre ?
Ouais, Marlowe, en fait, c'était sans papier.
D'accord.
Derrière le bas, c'est une organisation qui gère ces personnes-là. Et les personnes se passaient voir combien de personnes.
D'accord. Ok.
Et comme on a manqué. Ok.
Mais il n'y a pas eu d'autres indications de sa part ? Vous êtes domicilié ici également ou pas ?
Non.
Non ?
Non, moi je travaille pour l'organisation.
Ok.
Ouais, merci de 10. Et tu sais bien si au niveau du parking,
donc il est quand même commun avec le basique.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait, merci pour les infos.
Vraisemblablement pas, vous avez accès au bâtiment, vous pouvez rester là, mais comme c'est pas privé, c'est ouvert au public malgré tout, vous ne pouvez pas rester ici. Et juste prendre votre identité, monsieur, pour la relever quand même. Merci. Merci, madame.
Je vous ai aidé à porter les trucs.
Donc c'est dans le cadre de votre travail que vous êtes ici, c'est ça ?
Oui.
Ok. Vous êtes engagé par une ASBL quelconque ou un contrat de travail ou quoi ?
Non, pas.
Ok. Parce que pendant les mesures de confinement, vous ne pouvez vous balader que pour le travail, aller chez le médecin, faire vos courses. Donc si vous travaillez de manière bénévole, il faut au moins avoir une attestation quelconque. Parce que si vous vous faites contrôler, ne fût-ce que même en venant jusqu'ici, vous allez être pris comme un déplacement qui n'est pas autorisé.
Okay.
Ça va de 150 à 350 euros et à partir de 3 fois, 4 000 euros.
C'est devenu comme en France en fait, il faut une attestation maintenant pour circuler ?
Il faut au moins pouvoir prouver que vous circulez pour les mesures qui ont été accordées par le gouvernement.
Et comment on prouve par exemple qu'on va au supermarché ou des choses comme ça?
Bah ça on le verra si on, vous. Soit vous y allez, de toute façon il faut y aller dans une périphérie proche de votre domicile, et soit vous en revenez, vous serez avec des commissions diverses. Donc,
Vous savez où on peut trouver ces informations? Parce que moi je les ai pas vues passer pour la Belgique.
Sur le site du gouvernement.
Sur le site du gouvernement. Ouais. Okay.
Et là vous aurez clairement ce qui est explicité comme mouvement autorisé.
Ouais, en fait pour les mouvements, moi je le savais, mais je ne savais pas pour les justificatifs.
Mais c'est surtout que nous on doit pouvoir voir si vous êtes clairement dans ces 5 conditions ou pas. Mm-hmm. Et donc voilà, on peut malheureusement pas croire tout le monde.
Oui,
donc il faut un minimum de justification pour qu'on puisse voir ce qu'il en est.
Ouais.
Ça va?
Ça va.
En tout cas, ce genre de rassemblement, il faut. Ça c'est interdit clairement.
C'est 2 personnes maximum, vous pouvez pas stagner à un endroit, vous devez marcher. Et à partir du moment où vous êtes plus que 2, il faut que vous soyez domicile à la même adresse. Donc non, clairement,
ça va pas le faire. Non.
Ça va.
Ok, ça va.
Allez, bonne journée.
Bonne journée.
Toi là, toi, qu'est-ce qu'on t'a dit là? Tu restes chez toi, ok? Tu restes chez toi! Quand on vous dit de rester chez vous, vous comprenez quoi? Eh bien, vous restez chez vous, monsieur. Vous restez chez vous. Vous restez chez vous. Ah, commencez pas. Je t'embarque là. Quand on te dit de rester chez toi, tu restes chez toi, ok? Vous restez chez vous. Tu restes chez toi. Restez chez vous! Faut vous le dire comment? Tu restes chez toi, ok? Tu restes chez toi! Je sais pas, t'as pas l'air de comprendre là. C'est quoi que tu comprends pas dans les 3 mots? Reste chez toi. Personne dehors là, c'est bon, vas-y, dégage. Tu restes chez toi. Tu m'entends là? Tu restes chez toi. Tu m'entends là? Chez toi. Tu m'entends là?
Allô?
Oui, bonjour, c'est Arthur de Radio Panique.
Salut, beaucoup de boulot.
Oui, j'imagine.
Mais ouais, ça va un peu dans tous les sens. Donc, je m'appelle Anne-Sophie Dupont et je suis chargée de projet au Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, qui est donc un rassemblement associatif de 55 ASBL bruxelloises qui se mettent ensemble pour lutter pour le droit au logement. Donc, notre mission principale, on va dire, c'est de faire du plaidoyer pour le droit au logement à Bruxelles. Parler de logement en ce moment, ça a énormément de sens. Puisqu'on est tous confinés, pour ceux qui ont la chance de pouvoir avoir un logement déjà, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de logement, ou alors qui vivent en promiscuité dans les maisons d'accueil, les centres d'hébergement, les occupations, les squats. Il y a aussi tous les gens qui vivent dans un logement trop petit, insalubre, voire dangereux, quoi. Et donc, je crois que j'espère qu'on va aussi penser à tous ces gens-là. Et je pense que ça va vraiment être difficile pour eux en ce moment.
Comment se passe ton travail, le travail du RBDH aujourd'hui face à la situation actuelle?
Alors, il y a eu un moment de flottement parce qu'on était tous sur des projets dans l'équipe. Et entre continuer sur les projets sur lesquels on était et gérer un peu ce qui se passe, on est tous en télétravail déjà. Et on a quelques contacts avec les membres, mais assez peu pour l'instant, je dois dire, parce que je pense qu'il y a pas mal de services de première ligne qui ont plus ou moins fermé. Et je pense qu'il y a pas mal de travailleurs qui vont devoir faire des permanences téléphoniques.
Ouais, donc moi c'est Anjay, je travaille à l'Union des locataires maroliennes, une association d'aide à l'accès au logement. Alors nous, on a décidé de fermer les permanences comme toutes les autres associations qui font du travail de première ligne en tant qu'information et accompagnement. Bon, il y a d'autres associations qui travaillent avec les personnes fragilisés par cette situation qui reste ouverte, comme je sais pas moi, les maisons d'accueil et plein d'autres services. Mais donc nous on fait plus que des permanences téléphoniques, donc on peut toujours nous joindre sur le numéro fixe, l'appel est dévié vers nos GSM et là on répond aux questions par téléphone. Mais au moins 5 avril, peut-être plus longtemps, on sera fermé. Alors, franchement, on reçoit pas beaucoup d'appels. On a fait surtout au début beaucoup de d'accompagnement de situations et de personnes qui étaient déjà en cours. Mais là, on reçoit vraiment, vraiment très peu d'appels. À mon avis, c'est dû à plusieurs raisons. Les gens savent que les associations sont fermées. Ils ne savent pas forcément qu'elles font des permanences téléphoniques. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'Union des locataires, aux unions de locataires ou d'autres assos, sont orientées vers ces associations-là via d'autres associations ou institutions. Et comme tout est fermé, paralysé, etc., il y a pas beaucoup de gens qui viennent, qui nous contactent pour poser des questions, surtout qu'en plus, les accompagnements par téléphone sont assez basiques en fait, parce que tu peux pas faire le même type d'accompagnement que si tu le ferais avec la personne à tes côtés, avec les documents sous tes yeux, le contrat de bail ou d'autres, enfin voilà, tu auras tout plein de choses et il y a des barrières en plus pour faire un accompagnement de qualité. Et donc les gens là, en tout cas, ne nous contactent pas beaucoup. En tout cas, ils nous contactent, mais vraiment, vraiment pas beaucoup.
Et le peu qu'ils vous contactent, c'est quoi leurs préoccupations?
Ben, c'est des questions qui se posent, mais pas encore vraiment en masse. C'est-à-dire que effectivement, y a des gens qui ont des pertes de revenus, qui se demandent comment est-ce que ça va se passer au niveau du paiement des loyers. Et puis toutes des informations de base sur la question des préavis et ce genre de choses.
personnes, voilà, ils sont locataires et ils vivent une diminution de leurs revenus. Quelles sont les mesures d'aide et les solutions possibles actuellement ?
Je crois que c'est un débat qu'il va falloir qu'on ait, de se dire qu'à la fois, il faudrait une aide financière pour les gens, pour qu'ils puissent survivre, payer leurs factures, tout ça. Et à la fois, il faudrait réduire le coût de ces factures. Et donc déjà, avant cette crise, c'est ce qu'on revendique depuis longtemps, on revendique un encadrement des loyers. Le logement est déjà beaucoup trop cher à Bruxelles depuis longtemps. Normalement, on dit qu'une personne ne devrait pas dépenser plus de 25% de ses revenus dans son loyer. C'était le cas avant. Ça fait longtemps que c'est plus le cas pour bon nombre de Bruxellois, quoi, et Bruxelloises. Et donc, il faut faire quelque chose pour aussi réduire le coût du logement pour les gens, quoi. Donc voilà, je crois qu'il faut un peu jouer sur les deux tableaux. Mais je pense que ça reste une revendication, qu'on a toujours eue et qu'on aura toujours. Quoi.
Et est-ce que vous avez vent à travers vos associations membres ou vous directement d'actions mises en place de façon, collective ou de regroupement de locataires ou...
Maintenant, on est beaucoup sur Internet, donc il y a quand même des groupes qui sont créés sur Facebook. J'ai vu par exemple un groupe qui s'appelait United for Housing, où il y a des locataires voilà, qui font une pétition pour demander une baisse du loyer aux propriétaires. Mais c'est toutes des démarches qui se rejoignent, quoi. Je crois qu'il y a plusieurs groupes qui se forment. Il faut voir un peu comment tout ça va se fédérer dans le futur. Mais voilà, je pense que comme il y a plein de gens qui se retrouvent en difficulté ou qui sont inquiets, il y a des initiatives qui se mettent en place.
Et face à ces initiatives, vous en pensez quoi, vous, le RBDH ? Est-ce que vous avez pris position ou réfléchi à ça ?
On n'a pas encore pris position, mais je crois qu'on va devoir le faire. mais je pense qu'en tant qu'institution qui défend voilà, les personnes dans leur droit, enfin leur accès au logement, je pense qu'on ne pourra que soutenir des démarches de locataires en difficulté. Il y a aussi le problème en tant qu'institution, on n'a pas spécialement la réactivité qu'ont les citoyens via les réseaux sociaux. Tout ça. Donc, je crois qu'on a toujours, malheureusement, un peu de retard. Mais voilà, je pense que c'est aussi du temps qui est important pour voir comment on s'y tient, pour construire aussi des propositions assez précises sur les choses à mettre en place. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut en discuter avec tous les acteurs de terrain. Et chaque acteur de terrain a sa propre réalité parce qu'ils travaillent tous avec des publics cibles différents. Il y a les personnes qui travaillent avec les personnes sans abri ou les personnes sans papier, les réfugiés, les personnes handicapées. Et puis les personnes qui sont mal logées de manière générale, quoi. Donc, je crois qu'il faut qu'on prenne le temps de confronter tous ces retours de terrain avec aussi les nouvelles initiatives qui se mettent en place vu qu'il y a une nouvelle masse de gens touchés avec lesquels on ne travaillait pas forcément avant.
Par exemple, nous, on va justement diffuser bientôt un petit document qui va reprendre un peu les quelques informations concernant le non-paiement des loyers. Parce que voilà, il y a aussi le fait que généralement, quand tu emménages dans un logement, tu payes 2 ou 3 mois de garantie locative. Et cette garantie locative, elle sert notamment à supporter des loyers impayés. Si tu as déposé 2 mois de garantie locative, si tu n'arrives pas à payer ton loyer de, je sais pas, mars-avril ou avril-mai, eh ben si la situation se stabilise après, etc., ben le propriétaire peut garder les 2 mois de garantie locative que tu as déposé. Et voilà, t'es protégé par ça, je veux dire, tu vois. Mais si maintenant, ça se prolonge et que tu payes pas 3-4 mois de loyer, ben là, effectivement, le propriétaire pourra aller en justice de paix et demander à ce que tu payes ton loyer de retard et que tu te fasses expulser. Et donc là, effectivement, tout l'enjeu, ce serait que si la situation de crise perdure que les gens qui sont dans cette situation-là se regroupent d'une manière ou d'une autre pour faire face à cette situation de manière collective. Et c'est ça qui est toujours compliqué dans ces questions-là. Mais juste en attendant, enfin, il y a quelques infos par rapport à ça. C'est que bon, les expulsions pour l'instant ont été suspendues jusqu'au début avril. Mais bon, début avril, c'est là dans quelques jours. C'est-à-dire que par la suite, les choses pourront reprendre. Et donc tout l'enjeu, ça serait que les personnes qui galèrent ou qui décident de ne pas payer leur loyer se regroupent pour faire face à cette situation ensemble, quoi.
Ces regroupements d'initiatives collectives qui est souhaité, est-ce que toi, tu le vois apparaître est-ce que ça existe ou pas? Est-ce que vous facilitez ça?
Ça n'existe pas encore, mais peut-être que quelque chose va émerger parce que voilà, c'est une question qui se pose de plus en plus. Mais comme la situation n'est pas encore claire, que c'est dur d'avoir du recul par rapport à tout ce qui se passe, il n'y a rien encore qui s'organise vraiment dans cette direction-là, mais il y a des discussions sur le sujet. Et voilà, il faut voir si ça pourrait se faire ou pas. Mais inévitablement, au plus la crise se prolonge, au plus elle est dure, au plus cette question va se poser, ça c'est certain. Et donc peut-être des initiatives vont émerger dans ce sens. Si la crise perdure, ce qui risque quand même d'être le cas, là effectivement ça va être de plus en plus problématique. Et donc en fait il faudrait que toutes les personnes qui n'arrivent pas à payer leur loyer d'une manière ou d'une autre s'organisent pour trouver collectivement une solution à ce problème et de se réunir alors que ce soit via des associations ou via une auto-organisation, j'en sais rien, ou les deux, mais de se retrouver lorsqu'on est dans cette situation-là, de voir qu'est-ce qu'il y a moyen de faire. Puis en plus de ça, il y a des appels à des grèves des loyers qui sont lancés parce que, il y a toute la question de la financiarisation, du fait de devoir payer des sommes super élevées pour quelque chose qui est un besoin fondamental pour la vie, qu'il ne faudrait pas marchander. Transformer en une marchandise les besoins fondamentaux. Donc il y a un appel à la grève des loyers qui sont un peu lancés dans différents endroits, en France, au Canada et peut-être à Bruxelles aussi bientôt, on ne sait rien. Mais en tout cas, il y a toutes ces questions-là qui se posent parce que les gens, effectivement, qui subissent le plus cette situation-là sont les gens les plus précaires. Alors bon, les sans-abri, sans papier, c'est encore plus extrême, mais les personnes qui sont locataires des logements insalubres surpeuplés, c'est les personnes qui subissent le plus cette histoire de confinement parmi les personnes qui ont un logement, je veux dire, et qui ne sont pas en train de vivre ça de manière super agréable, surtout que souvent il y a aussi des pertes de revenus qui vont avec toi.
Yeah.
aviez une action prévue ce samedi, Belgian Housing Action Day.
C'est assez original dans le sens où, en fait, il y a eu plusieurs dynamiques qui concouraient et qui nous ont amenés à nous mettre ensemble. Donc, l'appel du 28 mars à la base, il vient plutôt du côté de l'Allemagne et ça a été relayé par une coalition européenne. C'est une coalition de d'ASBL et de différents collectifs. Et donc nous, on a eu vent de ça et donc avec d'autres organisations, d'autres collectifs et même certaines personnes individuelles, on s'est mis ensemble pour relayer cet appel à action et organiser une action centralisée aussi. On voulait donc organiser une manifestation ce samedi 28 mars dans le centre de Bruxelles, une manifestation nationale qui aurait été une première parce qu'en fait, il n'y a jamais une manifestation nationale pour le logement.
Maintenant, les manifestations ne sont plus possibles. Quelle sera la forme de cette action ?
On encourage les gens à faire maintenant, du coup, c'est d'organiser des actions décentralisées.
Comme toutes les autres assos, collectifs et personnes, malheureusement, comme la manifestation du 28 est annulée, on propose ce qu'on a trouvé ensemble comme au moins moyen de faire parler des problématiques du logement, c'est d'afficher des banderoles, des affiches au balcon sur la question du logement, envoyer les photos de ces banderoles, de ces affiches sur le groupe Belgian Housing Action Day, donc Belgian Housing Action Day, et voilà, il y a aussi la possibilité d'accrocher un drap blanc si vous faites la grève des loyers, par exemple. C'est un truc qui a été lancé au Canada, si je me trompe pas. Il y a moyen de diffuser des informations sur les questions de logement et de faire des petites actions, on peut proposer tout ce qu'on veut, le publier sur la page Facebook. Et comme on ne peut pas se regrouper, alors au moins faire parler de la problématique des logements, des problématiques des loyers, de la salubrité, etc., de tout plein de trucs, des personnes sans abri, des logements vides, de toute cette absurdité qui nous entoure.
Et juste hors des réseaux sociaux, vous pouvez nous donner aussi l'adresse mail
info@owning-action-d.be. Donc il y a aussi, on essaie de mettre à jour les infos petit à petit, mais donc le site internet c'est www.ovin-action-d.be.
Bonjour, bonjour. Ben voilà, j'ai été sur le parvis de Saint-Gilles devant Lilo, centre d'accueil de jour où les repas ont été distribués. Ça s'est très bien passé, pas un peu d'énervement. Quand je dis peu, c'est quelques individus, mais sans réel souci. La police, on les a pas vus aujourd'hui, ou de loin. Et dans l'après-midi, ils sont venus, ils ont l'air d'être assez calmes. Ils demandent juste aux SDF de temps en temps changer de place, de façon que, voilà, on peut voir aussi que eux aussi font leur travail, voilà. Donc, une bonne nouvelle pour moi, c'est que la police est un peu plus calme, sachant que Bruce Help et les chefs de corps de police vont avoir une réunion aujourd'hui, ensemble, pour pouvoir trouver des solutions d'approche entre la police et les immenses. Donc voilà, moi pour moi aujourd'hui, je trouve que ça s'est très bien passé. Merci à vous tous de m'écouter. À très bientôt.
Alors justement, tu m'expliquais que tu devais faire des déménagements. Ouais. Bah justement, pourquoi et dans quelle situation tu te retrouves à faire des déménagements?
Ouais, bah donc moi, mon boulot, c'est facilitatrice logement. Je travaille à la cellule capteur et créateur de logement dans l'ASBL ILO. On est au service de tout le secteur du sans-abrisme. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on accompagne la recherche de logements durables pour trouver des logements dignes, stables, qui soient plus du tout dans une logique d'urgence, de centre d'hébergement. Et on travaille de façon un peu inédite en binôme. Donc, il y a une personne qui a une casquette sociale et une personne qui a une casquette immobilière. Donc, moi, je travaille toujours avec un collègue agent immobilier pour essayer qu'on soit pas chacun dans son secteur, mais que vraiment on soit une équipe qui a une vision globale de la situation, qui a une approche commune et qui travaille vraiment dans la même optique. Et on fait ce qu'on appelle du coaching, c'est un peu ça sonne un peu managérial comme ça. On fait toutes des démarches administratives, on travaille la confiance en soi, on essaie de voir comment les personnes peuvent répondre à toutes les questions qui sont posées par les propriétaires sur leurs revenus, sur leur situation, le fait qu'elles étaient en rue. On les aide à faire de la prospection, on essaie de voir comment obtenir une visite, comment poser les bonnes questions en visite. Comment faire tout ce qui est ouverture de compteur, assurance. Et puis, on assure le suivi une fois en logement. Et on essaie de passer la main après à des services de guidance à domicile qui sont vraiment essentiels dans des mises en logement pour des personnes qui étaient à la rue. C'est approprier un espace, avoir des nouvelles habitudes, faire face à l'isolement social aussi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille. Et puis, pour le moment, tu me demandes comment ça se passe. À la fois, tout est ralenti et certaines choses sont au final complètement accélérées parce qu'il y a quand même... Il y a quand même une certaine urgence. Toutes les démarches administratives s'est ralenti parce que les CPAS, les communes, les agences immobilières sociales, tout ça est en train de fermer, enfin à fermer. Et donc, on doit tout faire par téléphone, par mail. On n'a pas toujours des réponses. Il y a des choses qui se font uniquement en rendez-vous face à face. Donc, on peut plus les faire pour le moment. Nous, on doit essayer d'assurer des suivis.
Oui, vous faites des suivis.
Mm-hmm. Oui, voilà, tous nos suivis, on doit les faire par téléphone. Et c'est pas toujours facile. C'est pas simple de maintenir un lien comme ça sans voir la personne en face à face. Puis on s'adapte aux mesures sanitaires. On voit qu'il y a.
Ouais, c'est
puis pour le moment, comme nous, on doit faire des visites d'appartements, etc. Là, tout le secteur immobilier est gelé, donc il n'y a plus de visites possibles. Mm. On va essayer de voir un peu si on peut faire les choses par vidéo. Dans les mises en logement qu'on a fait, parce qu'on avait déjà eu des démarches avant le confinement et donc on a essayé de terminer tout ça. On a eu plein de soucis techniques. Ça peut paraître bête, mais typiquement, là, on avait une chaudière, il manquait une petite pièce pour la réparer. Et on attend toujours parce que ça prend plein de temps de trouver cette pièce dans les circonstances actuelles. Hier, j'ai dû faire un rendez-vous pour signer un bail. Nos consignes de sécurité, c'est de faire les rendez-vous uniquement à l'extérieur, mm-hmm. avec 2 mètres de distance, etc. Donc, je me retrouve place Plaget à essayer de signer des documents dans un vent de dingue. Et en 10 minutes, 3 patrouilles de police différentes qui viennent nous interrompre en nous disant... qu'on veut pas rester là, qu'on veut pas rester statique, qu'on n'est pas censé être ensemble si on vit pas ensemble, etc. Alors qu'on leur explique voilà que c'est pour le boulot, qu'on respecte toutes les mesures d'hygiène, etc. Non, ils nous font marcher, mais bon, voilà, signer des documents et les compléter en marchant. Ouais, bon, on essaie de s'adapter et les équipes restent super motivées pour le moment. On continue à faire tout ce qu'on peut comme avant le corona, en faisant face à quelques difficultés différentes. Et puis on a des projets innovants pour le moment. Qui tombe à pic dans les situations actuelles. On a un peu des nouveaux partenariats avec des sociétés de logement public et on teste d'utiliser des logements inoccupés, des logements publics pour du logement de transit. Donc le logement de transit, c'est un logement en attente d'un vrai logement durable. Et là, pour le moment, ben, c'est vraiment une solution qui permet un confinement plus safe pour les personnes, parce que c'est plus dans des structures avec beaucoup de monde, où il n'y a pas toujours des chambres individuelles, etc. En 3 jours, là, dans les jours qui viennent de passer, vendredi, samedi, lundi, on a fait 4 déménagements avec des camionnettes remplies à max, des déménagements parfois même à vélo pour apporter les draps, la vaisselle, etc. Avec les mesures de sécurité, de laisser l'appartement vide pendant 2 jours pour aussi s'il y a du virus sur des objets, que tout ça soit mort. Et puis on a nos gants, nos masques. Voilà, tu peux imaginer que c'est de faire un déménagement avec des gants qui se cassent parce que ça s'est pris dans un clou. Avec
ouais, quand on masque, vous êtes quand même bien organisé, hein.
Ouais. On trouve d'autres solutions. Ouais. On en est arrivé à. On n'arrivait pas à trouver des listes dans les temps pour déménager des choses qui étaient voilà, dans des étages, dans des grands bâtiments. Donc on a balancé des matelas par les fenêtres. On a trouvé voilà d'autres façons de faire. On a pris des canapés individuels plutôt que des grands sofas à 3 places qui passaient pas dans les escaliers.
Tu les rencontres comment? Par quel biais, en fait? Vous allez dans la rue directement ou c'est eux qui font une demande? Ils viennent vers vous dans vos bureaux? Enfin, il faut que... Ou vous allez aussi voir un peu comment ça se passe dans la rue?
Tu parles de façon générale ou pour le moment?
En général. Et puis après, tu peux dire pour le moment, oui.
Donc, en général, nous, on travaille avec des services envoyeurs. Donc, on va jamais directement voir une personne et dire « Ah, est-ce que ça te dirait de faire du coaching logement ?» C'est 24 services envoyeurs qui font ben voilà leur accompagnement social et qui parfois rencontrent des personnes qui sont désireuses de trouver un logement durable, qui sont prêtes à le faire. Et alors, ils nous renvoient des candidatures. Et nous, la seule condition qu'on demande, c'est que la personne ait des revenus pour pouvoir payer un logement. Et à partir de ça, on fait des premières rencontres avec les services envoyeurs et les personnes concernées. Et puis, on lance un coaching. Ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut parfois aller très vite. Ça dépend un peu du marché de l'immobilier pour le moment. Ça dépend de est-ce que la personne a déjà tous les documents qu'il faut? Est-ce que cette situation est plus ou moins en ordre?
Par rapport à la pandémie qu'il y a maintenant, il va d'office y avoir une crise sociale. Et justement, l'immobilier va sûrement être le premier à être dans le collimateur, dans le sens que peut-être les loyers vont augmenter ou...
En tout cas, pour le moment, ce n'est pas une phase qui est facile. Voilà, avant le coronavirus, c'est un marché qui est déjà très agressif, qui est bien bouché. Il y a une concurrence énorme sur des loyers petits et déjà très chers.
Toi, tu crois à une amélioration ou genre que ça va s'empirer socialement après?
Bah, si je te réponds avec ma vision la plus optimiste possible, je dirais qu'il y a des choses qui bougent pour le moment. Je crois qu'il y a une indignation de l'opinion publique face aux bâtiments vides et que le politique commence à prendre ça en main et à essayer de faire avancer les choses. Alors pour moi, ce sera jamais assez, ce sera jamais assez vite, mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut pour que ça bouge.
happening to me. I'm suffering, never wanna stay in this life, so rescue me.
Coucou mon petit chou, tu m'entends toujours?
Ça va.
Ouais.
Ça va, tu lis bien.
Ça va, mais ça siffle un peu. Tu crois que tu peux relire ton message? Ça t'embête pas?
Non, ça m'embête pas. Allez, vas-y, allume le
c'est truc, bon, dis-moi, tu peux y aller.
Bonjour à tous, de Abdelkader. Voilà, pour les circonstances inattendues, avant tout, je présente toutes mes condoléances à toute personne qui a perdu un ami, à toute la famille qui a perdu un proche. Et j'espère à toute personne touchée de cette épidémie la récupération la plus vite possible. Pour cette occasion triste, la voix de la rue à la radio panique, mon très cher ami Émilie passe ce message de ma part, la vie continue. Je suis encore triste des immenses qui n'ont pas un lieu pour vivre tranquille et pour les étrangers relâchés des centres fermés, et maintenant ils se sont rechassés dans les parcs Maximilien et dans la rue Encore, je lance encore le message. Des habits avec vos chiens, vos matraques, ça va servir pour rien. Et imaginez-vous que vous êtes à la place des champs immenses qui souffrent de la épidémie autoritaire. Comme je l'ai dit plusieurs fois, personne ne peut se cacher derrière son offre. La vie continue. Et si tu peux chercher une chanson.
Ouais, tu veux?
Mais je connais pas le chanteur, mais si tu la trouves, tu peux, je te dirai le comment ça chante, tu peux écrire ça, possiblement tu la trouves.
D'accord, ça s'appelle comment?
Il y en a des gens, ils parlent comme ça.
Tu sais pas le titre de la chanson?
Je crois que c'est ça, il y a des gens.
Il y a des gens...
Et des gens.
Attends, je cherche.
Il y en a des gens riches, il y en a des gens pauvres, il y en a des gens malades, il y en a des gens en pleine santé. Il parle de ça, ce mec-là, dans la chanson.
Les gens par Christophe Maé. Attends, regarde, je vais... Il y a des gens, Georges Chelon, sinon. Attends, je te mets la chanson, tu me dis si c'est ça.
D'accord.
Attends, il y a un truc qui s'appelle Les gens. Tu m'entends?
Oui, je t'entends.
Attends.
Il y a des gens du nord, des gens du sud.
Oui, c'est ça, c'est bien ça.
Et des vies rudes.
Ok.
Y a des gens heureux.
Ok.
Voilà, c'est bien ça la chanson, merci.
Eh ben super, je te mets ça.
Il y a des gens du voyage, il y a des gens qui voyagent, des gens qui restent et des gens de passage. Il y a des gens qui planent et ceux qui touchent le fond, des gens qui dorment et des gens dorment son. Il y a des gens divers et il y a des divergents, des gens qui espèrent et des gens d'Abidjan. Il y a des gens du nord, des gens du sud, des vies douces et des vies rudes. Et il y a des gens heureux, des vies tristes qui dorment dehors. Il y a des gens heureux.
Pour un confinement solidaire. À la mémoire de Ngatare, femme noire précaire disparue à la suite de ce confinement à plusieurs vitesses. Nous, citoyennes, citoyens, bruxellois, bruxelloises, appelons de toute urgence les autorités communales à prendre toutes les mesures nécessaires afin de soutenir activement les personnes les plus vulnérables dans leur lutte face au Covid-19. En effet, nous nous retrouvons dans une situation où un pan entier de la population, comprenant les sans-abri, les sans-papiers, les migrants, les migrantes, est complètement oublié des radars de prévention contre le Covid-19. À la suite d'une combinaison de prises de parole portées d'une part par l'arrêté de police soutenu à la commune étervécoise le 21 mars 2020, à la carte blanche « Appel des pauvres et des précaires face au coronavirus » signée par une myriade d'acteurs et actrices du tissu associatif et social belge, et d'une carte blanche citoyenne « Que serais-je sans toi ?», nous, citoyens, citoyennes, bruxellois, bruxelloises, exigeons que des mesures de relogement soient orchestrées par l'ensemble des communes bruxelloises. En effet, en considérant les dispositions prises par la commune d'Etterbeek afin d'endiguer la propagation de cette crise sanitaire, nous exigeons une généralisation à l'échelle de toutes les communes bruxelloises de ces consignes. Nous exigeons par ce fait la réquisition générale de l'ensemble des hôtels et auberges, ainsi que la réquisition collective du personnel nécessaire et suffisant à l'exploitation de ceux-ci. Le dit personnel devra être appuyé par des agents des services communaux de prévention. En outre, les CPAS ainsi que des mouvements locaux de solidarité veilleront à fournir un repas chaud quotidien aux personnes relogées. Les présentes réquisitions se feront moyennant indemnité, laquelle sera évaluée, de commun accord, entre les établissements hôteliers et auberges et l'autorité communale. Nous, citoyennes, citoyens, exigeons que des consignes claires allant dans le sens de nos recommandations soient prises. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. Nous devons agir au plus vite et protéger l'ensemble des strates de la société de la dangerosité de cette pandémie. Cette question définira les fondements de notre humanité. Nous devons impérativement adopter les mesures adéquates pour garantir un confinement digne pour tous et toutes. Agissons de façon responsable et construisons un univers politique inclusif. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, les bourgmestres, nos salutations les plus distinguées. Prénom, nom. Et si vous voulez aussi envoyer cet appel à votre bourgmestre, le texte et les adresses mail par commune sont disponibles sur le site de Radio Panique, en bas de la page de cette émission, Radio Pandémique, épisode 7.